I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 677 du podcast Jeune Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Bonjour Grégory Richard.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Comment ça va messieurs ?
Très bien.
Pas mieux que toi apparemment. Ça a l'air d'aller.
Je me disais, j'allais être courageux, j'allais pas dire, tu vois, parler de mon état physique là-bas.
Ouais, ça s'entendait presque pas en plus.
Ouais, en plus, voilà, c'est ça, on me comprend pas depuis ce matin. Toi qui aimes les sucreries, Grégory, quand j'ai commandé un millefeuille à la boulangerie qu'elle m'a pas compris, j'ai senti que ça n'allait pas, tu vois.
Ah, c'est terrible.
Voilà.
Les incompréhensions les plus insupportables au monde.
Ouais, c'est du coup j'ai dit je suis désolé, j'ai un petit accent aujourd'hui, mais ça va repartir d'ici quelques jours, on espère. Bon messieurs, on va parler NFL évidemment, on n'est pas sur Doctissimo. On va parler NFL, on va parler d'un remake du Super Bowl qui a donné une belle affiche, des grosses équipes qui se réveillent et des Commanders qui font n'importe quoi. Une semaine qui est à peu près normale en NFL, mais aussi une très belle semaine. On en parle juste après ça.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Chiefs 17, Eagles 21, c'était le remake du dernier Super Bowl et cette fois ce sont les Chiefs qui menaient à la pause 17-7. Contrairement au Super Bowl, ce sont eux qui se sont fait remonter, ils n'ont pas marqué le moindre point en deuxième mi-temps, Jalen Hurts a frappé deux fois au sol pour refaire passer son équipe devant et Patrick Mahomes n'a jamais réussi à répondre. Messieurs, est-ce qu'il y a un problème avec l'attaque des Chiefs ? Raphaël ?
Oui, il y a un problème avec cette attaque des Chiefs. Qui n'arrive pas à marquer en deuxième mi-temps, là c'est 0 points depuis le début de la saison, ils sont à 5 points marqués en moyenne par seconde mi-temps, 31e de la ligue dans ce domaine-là, ce qui peut poser problème, puisque entre-temps, en première mi-temps, ils n'arrivent pas forcément tout le temps à marquer une trentaine de points pour non plus se mettre à l'abri, donc ils se mettent en danger en deuxième mi-temps, et là ça a été le cas. Il y a un problème parce que c'est finalement les mots qu'on avait commencé à repérer en début de saison se confirment, l'absence d'un vrai receveur numéro 1, d'autant plus que Travis Kelce semble un peu moins dominant que par le passé, on va dire ça comme ça. Donc du coup, ce qui était ta cible numéro 1 très très forte est un peu moins forte et t'as pas de receveur pour compenser cette perte. Et il y a quand même un Jawan Taylor, je trouve, sur le côté droit de la ligne qui multiplie les actions catastrophiques, quoi.
Ouais, Greg, il est passé par toutes les expressions faciales hein, depuis qu'on parle des Chiefs. Greg, Jawan Taylor, ça t'a fait réagir. Alors, on va repartir là-dessus.
Bah, malheureusement, oui, c'était un des paris de cette intersaison du côté des Chiefs. On sait que On est forcément obligé de s'adapter. C'est sûr que les contrats de Patrick Mahomes et de Travis Kelce font que forcément, du côté de Kansas City, on essaye d'une part de bien drafter et surtout d'essayer de régénérer un petit peu certaines escouades, notamment le groupe de tackle. Hein. On sait que c'était arrivé notamment au lendemain du Super Bowl perdu face aux Bucks. Là, on a de nouveau essayé de rectifier ça. Et sur des matchs face à des Eagles qui, ces dernières semaines, sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue pass rush, ça a été extrêmement compliqué. Comme le disait Raph, il y a de nombreuses erreurs, notamment des pénalités de Jawan Taylor qui coûtent souvent cher. Donovan Smith, bah, on se rappelle aussi de temps en temps pourquoi il n'a pas finalement été conservé par Tampa Bay. C'est aussi une problématique et c'est vrai que bah, on a beau avoir le meilleur quarterback sur le papier de la ligue. S'il y a un pass rush, s'il y a un pass pro pardon, qui n'est pas suffisamment performant et qui a une escouade de receveur qui a pas mal de savon sur les mains, hein. Je pense qu'on va peut-être parler d'une action assez caractéristique, mais malheureusement, c'est vrai qu'on l'a déjà dit sur d'autres rencontres, hein. Je pense à au match de Kadarius Toney face à Détroit, par exemple, en ouverture. Il y a aussi des scénarios où, bah, pour Kansas City, ça passe pas forcément bien loin, malgré des matchs où ils sont pas forcément à 100% dedans. Et pourtant, il y a des actions qui leur coûtent cher sur des erreurs qui, a priori, ne devraient pas avoir lieu pour un prétendant au titre.
Tu parlais de receveur maladroit, Marquez Valdes-Scantling qui n'arrive pas à capter le ballon de la gagne à moins de 2 minutes de la fin, ça dit tout en fait, Raphaël.
Oui, oui, ça dit tout. Grégory l'a dit, c'est une action assez symbolique des problèmes de cette équipe. T'as cette opportunité de reprendre les commandes du match, tu la rates parce que les receveurs font des petites erreurs, sont pas assez bons. Non, mais c'est ça, c'est la symbolique même de ces problèmes. Donc après, Tu peux toujours espérer que ce sont des erreurs individuelles et te dire que demain ça va peut-être aller un peu mieux, et de toute manière je pense que cette équipe a d'autres qualités et ça y suffira pour aller en playoff. Maintenant on voit qu'en playoff il va falloir quand même se sortir de cette situation, et que gagner 3 matchs d'affilée avec une escouade de receveurs pareil, ça peut être plus compliqué que par le passé.
Mahomes est sous pression sur 20 de ses 50 tentatives, mais c'est des pressions qui arrivent en plus de 3 secondes, donc en fait ça veut dire que les mecs se démarquent pas, tout simplement. Il y a la pression, elle a le temps d'arriver. C'est assez significatif. C'était un match dans des conditions difficiles, hein, quand même, il faut le rappeler. Il y avait de la pluie. Les Eagles n'ont pas avancé en début de match non plus, seulement 78 yards gagnés à la pause, 238 au total. Greg, comment ils arrivent à gagner ce match?
Ça, c'est une excellente question. Une force de caractère avant tout, j'ai presque envie de dire, parce que c'est sûr que c'est longtemps la défense quand même qui a maintenu cette équipe des Eagles à flot, hein, parce qu'on parle des Chiefs, mais très clairement, les Eagles étaient attendus. Il y a eu beaucoup de pression également sur les épaules de Jalen Hurts, hein, qui subit d'ailleurs 5 sacs, il me semble, sur cette partie. Ouais. Il y a eu beaucoup de difficultés également à trouver Jay Brown, donc... Il y a eu un moment, en tout cas, il y a eu une force de caractère quand même assez notable. Il y a des Eagles qui ont toujours su avoir du répondant. C'est-à-dire que dès que les Chiefs ont marqué leur premier touchdown, ils ont répondu dans la foulée. Dès qu'ils ont subi une interception, ils ont répondu dans la foulée. Et à ce petit jeu-là, en deuxième mi-temps, bah, une fois qu'ils ont réussi à mettre la main, notamment sur cette rencontre, notamment avec le fumble de Travis Kelce, qui leur a permis justement de se rassurer un petit peu plus. Après, on l'a dit, il y a des éléments qui jouent. De toute façon, c'est pas un match qui se joue à 20 points d'écart. Voilà, je vais pas exagérer avec la formule. Ça joue sur un lancer de pièces, parce que Philadelphie a rien volé à personne, très clairement, sur ce match-là. Il y a une défense qui a été extrêmement appliquée et une attaque qui a su être opportuniste quand il le fallait, hein, notamment un Devonta Smith décisif en 4e tentative. Donc voilà, ça rappelle que ces Eagles sont extrêmement complets. Et que même s'ils sont pas forcément toujours à 100% face au tenant du titre et à un cador de la saison, bah, c'est une équipe qu'il faut jamais sous-estimer jusqu'au bout.
Les Chiefs ont en effet perdu 2 ballons dans les 20 derniers yards, hein, tu parlais de Travis Kelce. Raphaël, on est là-dessus, on est sur de l'opportunisme, et puis une équipe qui a l'air quand même à toute épreuve, quoi, qui a l'air de pouvoir répondre à peu près à tout ce qu'on lui envoie depuis le début de l'année.
Oui, oui, de l'opportunisme, bien sûr. De toute manière, j'ai presque envie de dire que c'est un peu l'essence presque du football américain. Ça se gagne souvent sur des petits détails, des petites erreurs, des petites choses. Enfin, c'est rarement un sport où t'as une domination telle d'une équipe qui met 20-30 points d'écart et qui a zéro match. Enfin, on le voit semaine après semaine, ça se joue à peu. Donc, avoir cette capacité à créer des turnovers. Et après, on l'a dit toute la saison, hein, c'est ce qui fait, à mon sens, la force principale de ces Eagles, c'est qu'ils sont capables de gagner d'un peu toutes les manières. Les premières semaines, c'était l'attaque et A.J. Brown en feu et le jeu aérien. Là, on a eu plus de sol que ces dernières semaines, plus de jeux de course quand même pas inintéressants en deuxième mi-temps. Et la défense qui a maintenu l'équipe. Donc voilà, ils savent s'adapter à tout, ils savent répondre à tout ce qu'on leur propose ou proposer autre chose. Bon, bah ça en fait une des top prétendants, mais comme on les imaginait à quelque part. Hein. De toute manière, je vais peut-être être pas assez convaincu par eux, non, c'est pas le terme, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce que c'est, la façon dont ces Eagles sont forts, en fait. Enfin, on savait que c'était une équipe forte et complète, et ils le montrent.
Grégory, c'est la meilleure équipe de la Ligue, Philadelphie.
Bah, c'est ce qu'ils montrent sur cette rencontre-là, en tout cas, puisque non seulement c'est la seule équipe à une défaite, mais il me semble que c'est la seule équipe à moins de 3 défaites.
Non, il y a les Lions à 2.
Ah, les Lions à 2, pardon. Ouais,
justement,
pour
je m'étais fait la remarque.
J'avais un doute là-dessus. Mais voilà, donc on sent quand même qu'ils creusent un certain écart. C'est une victoire extrêmement intéressante aussi, parce que y a ces fameuses confrontations, en tout cas la confrontation retour à Dallas, qui n'est pas à sous-estimer face à des Cowboys qui restent assez pressants, mine de rien, dans la NFC Est. Donc oui, ça, je te rejoins, ça confirme que c'est sur le papier la meilleure équipe de la Ligue, en tout cas, mais ça, Raph l'a bien rappelé, la plus complète d'assez loin.
On passe aux Jaguars, 34, Titans, 14. Les Jaguars qui ont maîtrisé ce match en défense, et Trevor Lawrence a porté l'attaque pour tranquillement se détacher. Trevor Lawrence qui termine avec des stats de... qui sont cachés sur mon écran, 24 sur 32, 262 yards, 2 touchdowns, aucune interception. On était dans une très bonne semaine des Jaguars, Raphaël.
Oui, on était dans une bonne semaine face à un adversaire qu'ils ont vraiment su contenir à totalement. Enfin, ils ont éteint le jeu au sol et Derrick Henry, et derrière, ils se sont concentrés sur bloquer finalement le jeu en profondeur à la passe des Titans, et on voit que pour le moment, Will Levis... On l'avait vu, hein, sur son premier match, il a un bras canon, mais pour le moment, les lectures intermédiaires, c'est un peu moins son truc, on va dire. Donc voilà, ils ont globalement bien dominé en défense, et après en attaque, comme tu dis, il y a un match meilleur que celui face aux 49ers de Trevor Lawrence. On revoit enfin Calvin Ridley, qui avait quand même disparu depuis un bon mois et demi, j'ai envie de dire. Donc c'est bien, voilà, les Jaguars prouvent que maintenant, ils arrivent à battre les équipes plus faibles qu'eux. Maintenant, est-ce que c'est une équipe qui a vraiment progressé? Va falloir attendre un autre match contre un Cador, parce que la semaine dernière contre les 49ers, on a eu un petit coup de froid, on va dire.
Grégory, il y a une attaque complète quand même, mine de rien, et Raphaël le disait, Calvin Ridley est de retour. Ils ont gagné le temps de possession, ils ont des armes. Est-ce que c'est aussi une question de régularité, qu'il faut que ce soit ça qui devienne leur standard?
Oui, clairement, on voit que notamment dans les bilans intra-division depuis leur faux pas en troisième semaine face à Houston, globalement, ils laissent quand même pas beaucoup de part. Ils sont à 3 victoires et une défaite face aux adversaires de division, sachant que contre Indianapolis et contre Tennessee, alors là, il y a 20 points d'écart, mais il y aurait largement pu en avoir plus vu la domination globale des Jags sur cette partie-là. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, malheureusement, il y a cette question de l'inconstance. C'est sûr que sur le papier, on peut se dire qu'il se balade avec un Travis Etienne, par exemple, qui n'a pas non plus des stats mirobolantes au niveau du jeu au sol. Mais c'est vrai que la semaine dernière, ils ont été totalement pris à la gorge de bout en bout. Donc, qu'ils soient capables, en effet, de dominer des équipes qu'ils doivent dominer avec la manière, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut franchir l'étape d'après, encore du côté de Jacksonville, surtout dans l'optique des playoffs. C'est réussir à envoyer des messages, justement, aux concurrents directs. Et on sait qu'ils vont, par exemple, recevoir Baltimore de mémoire, enfin ils vont avoir quand même un calendrier qui peut les amener à affronter d'autres adversaires directs dans l'AFC. Donc ce sera bien de se jauger contre ces équipes-là pour avoir une idée plus précise de ce qu'on pourra avoir en janvier.
Raphaël, si on revient à ce match, ils ont eu un mérite, les Jaguars, c'est d'attaquer les faiblesses, c'est-à-dire que la ligne offensive des Titans c'est en galère, les Jaguars ont blitzé sur 50% des tentatives de passe. Donc au moins ils sont efficaces en termes de plan de jeu.
Oui, bien sûr, ils sont efficaces là-dessus et ça leur a permis en plus de mettre sur les jeux de course à l'inverse encore plus d'hommes dans la boîte pour bloquer Derrick Henry. Donc le plan était assez évident, mettre la pression sur le quarterback rookie, l'empêcher d'avoir du soutien au sol et attendre que ça se fasse, j'ai envie de dire. Ça a marché, effectivement, c'était bien vu de leur part. Globalement, de toute façon, les Jaguars sont globalement bien coachés, donc c'est pas non plus une surprise qu'ils arrivent à s'en sortir là-dedans, quoi.
Grégory, Will Levis, je l'ai dit, il était beaucoup blitzé, il s'en sort avec un 13 sur 17, 158 yards et 2 touchdowns, mais on a l'impression que c'est un peu le crépuscule autour, parce que ça bloque Derrick Henry, qui existe quand même plus beaucoup là depuis quelques temps, 10 courses pour 38 yards, et donc du coup Will Levis, il a pas de ligne, il a plus vraiment de jeu au sol, il fait ce qu'il peut, quoi.
Je le disais quand il a été nommé titulaire avant le match face à Atlanta. Alors c'est sûr qu'après, on a eu un premier match très convaincant, mais parce que la défense des Falcons, c'est aussi ce qu'elle est. Ça fait mal de le dire, mais forcément, à Tennessee, elle n'est pas croisée que des défenses du niveau d'Atlanta, en tout cas capable d'être autant piégée dans le dos du backfield de manière aussi fréquente. C'est vrai que là, voilà, vous l'avez dit, mais avec un plan de jeu qui est assez établi, à partir du moment où on arrive à annihiler le jeu au sol et à mettre beaucoup de pression, bah c'est comme quand il était en universitaire à Kentucky où la ligne offensive était catastrophique. Il ne pourra pas forcément faire de miracle. Oui, il a un gros bras, mais le gros bras, il faut avoir le temps de l'enclencher aussi. Donc malheureusement, va falloir gérer ça du côté de Tennessee. Il va falloir espérer au cours des prochains mois, parce que je pense que maintenant, l'objectif, c'est plus vraiment les playoffs. Je m'avance peut-être en le disant. Mais voilà, je pense qu'il va falloir se focaliser maintenant qu'on a peut-être une idée de ce que peut être le quarterback du futur. C'est peut-être un running back d'avenir et surtout à une ligne offensive de bien meilleure qualité que ce qu'on a.
Bills 35, Jets 6. Enfin, Zach Wilson a été mis sur le banc. Il a lancé une passe de touchdown à Breece Hall dans le second quart. Premier touchdown en 41 possessions pour les Jets. Mais il est sorti après. Son équipe était en train de se faire ouvrir. Hein, 32-6, je vous l'ai dit, au moment du touchdown. Ils étaient menés 16-0 et reviennent à 16-6. Et puis derrière, ils prennent deux autres touchdowns et un field goal. Ils n'ont pas existé en deuxième mi-temps non plus, j'ai envie de dire. Parce que même après la sortie de Zach Wilson, il n'y a pas eu de réveil incroyable. On va commencer quand même par... ça, hein, c'est la grande nouvelle quand même de ce match, c'est Zach Wilson qui est enfin envoyé sur le banc. Raphaël, c'est logique quand même.
Oui, c'est logique. Le niveau et les prestations offertes semaine après semaine étaient trop basses pour trop basses, et je pense qu'à un moment c'est même logique d'un point de vue entente collective et entente dans le vestiaire. Je pense qu'à un moment Robert Saleh, il peut pas laisser sa défense toutes les semaines aller au combat, aller au mastic, prendre des coups, mettre des coups et dire bah les gars, de toute façon ça sert à rien parce que Zach Wilson il est nul et je continue avec. Enfin, je pense qu'il y a un moment, juste par respect même pour les défenseurs, les autres joueurs, il est obligé de dire je mets le meilleur sur le terrain et manifestement c'est plus Zach Wilson et c'est pas Zach Wilson. Donc voilà, moi c'est pour moi c'est un choix logique qui aurait peut-être même pu être fait un tout petit peu avant. Maintenant bon, ils ont voulu tenter une dernière fois le coup, écoute.
Après, ça reste une équipe du coup qui n'a pas existé, Grégory.
Ouais, alors c'est sûr que c'est encore plus dur par rapport au constat que dresse Raph, c'est que bah, malheureusement, tu essayes d'envoyer cet électrochoc en disant à la défense, regardez, on change de quarterback et c'est peut-être le pire match défensif des Jets depuis le début de la saison. Donc c'est ça qui est un peu dommageable, où on a senti que même les principales vedettes offensives et défensives, je vais pas dire ont démissionné parce que le mot est un peu sévère, mais en tout cas ont clairement été au diapason de ce qu'il y avait autour d'eux. Donc c'est assez problématique. Là encore, du côté, on a des ingrédients assez similaires à Tennessee dans d'autres proportions, peut-être notamment défensivement. Mais à mon sens, voilà, il y a une ligne offensive qui, de toute façon, notamment le pass pro, qui est un problème permanent depuis le début de la saison. On va parler du coordinateur offensif, du changement de coordinateur offensif en face, mais ce que propose Nathaniel Hackett depuis le début de la saison, j'ai du mal à le comprendre. Il y a un jeu au sol qu'on n'arrive pas à faire carburer, alors qu'on a quand même signé de manière assez chère quand même Dalvin Cook pendant l'intersaison pour justement avoir cette double lame avec Breece Hall. Et malheureusement, les prestations convaincantes du jeu au sol, le jeu au sol très abouti justement pour essayer de compenser. On voit des équipes, hein, on charriait un petit peu Mike Vrabel l'année dernière avec Tennessee parce que c'était hyper caricatural, mais au moins tu as des équipes qui essayent d'imprégner une certaine identité. Chez les Jets, après 10 matchs, chez les Jets, après 10 matchs, alors que tu sais que Zach Wilson a les limites qu'il a depuis le jour 1, bah malheureusement, tu n'arrives pas à imprégner une autre identité, et c'est aussi le problème de Nathaniel Hackett qui était capable du côté de Green Bay d'avoir une patte avec un jeu au sol très très ancré. Cette patte-là du côté des Jets, on ne la voit pas, et c'est aussi ce qui est problématique. Bon, là après sur ce match-là, c'est vrai que le scénario fait que forcément tu dois beaucoup plus passer et tu mets forcément plus de pression sur tes quarterbacks, l'un qui est en disgrâce et l'autre qui est lancé un petit peu dans le grand bain avec les requins qui l'attendent, quoi.
Après, Dalvin Cook, en effet, c'est une des énigmes de la saison, hein, parce que tu l'as fait venir pour 49 courses et 160 yards en 10 matchs.
C'est ça.
J'ai un peu de mal à comprendre l'utilisation. Bon, inutile de dire, si vous ne connaissez pas Tim Boyle, que les Jets ne sont pas tout à fait sauvés. Il a 29 piges, donc je pense que son plus gros accomplissement en carrière, c'est d'être toujours là, parce qu'il a 29 ans. Et en fait, son bilan en carrière, c'est 3 touchdowns pour 9 interceptions. Il est passé par les Packers, les Lions, les Bears, et puis il s'est dit, je vais sortir de la NFC Nord, je vais aller voir ce qui se passe du côté des Jets cette année. Mais encore une fois, ils sont pas sauvés, au sens où ouais. C'est, je sais même pas si c'est pire, mais c'est pas mieux. Enfin bon, les Jets, sachez qu'ils convertissent 22,9% de leur troisième tentative. C'est le plus petit pourcentage depuis 1991 parce qu'on n'a pas de stats pour avant. Voilà.
Et là, donc, je te dis, et je me permets, pour finir sur les Jets de mon côté, on parle du retour potentiel d'Aaron Rodgers. J'ai un peu peur que de toute façon ce soit tard, même si tout le monde est en train un petit peu de se manger les uns les autres dans l'AFC et qu'on peut peut-être espérer qu'il y ait une équipe avec un bilan égal dans les places de wildcard au moment où Rodgers potentiellement reviendrait. Là, ça commence à prendre un peu du plomb dans l'aile depuis un mois, quoi.
De toute façon, c'est Aaron Rodgers qui parle beaucoup du retour d'Aaron Rodgers. On va peut-être attendre de voir quand même, parce que, enfin, non, mais tu vois, il a il annonce un truc que personne n'a jamais fait dans l'histoire de la NFL, et on va attendre un peu. Tu vois, là, c'est le scénario idéal pour lui, parce que dans 5 semaines, il dira, ah, je pouvais revenir, hein, j'étais prêt, mais bon, c'est con, la saison est perdue, je vais quand même pas revenir maintenant. Donc, il pourra se faire mousser, mais. On va attendre de voir quand même, parce que voilà. Les Bills avaient un nouveau coordinateur offensif, tu l'as dit, Greg. Est-ce qu'on a vu une différence, Raphaël ?
En première mi-temps, non. En première mi-temps, on avait la même équipe incapable de conclure en red zone. Hein. T'as trois passages en red zone qui se finissent par des field goals, notamment, et un turnover de mémoire, ou trois field goals, j'ai un petit doute là-dessus. Mais en tout cas, il y a cette incapacité en première mi-temps à aller conclure. En deuxième mi-temps, c'était mieux, c'était manifestement mieux, avec, j'ai trouvé un Josh Allen qui pour le coup acceptait de jouer peut-être parfois moins en profondeur, moins le hero ball, et acceptait de faire bouger un peu plus les chaînes de manière un peu plus courte. Tant mieux. Maintenant, j'avais pas de doute que Josh Allen puisse le faire sur une mi-temps et que Joe Brady puisse proposer ça sur une mi-temps. Maintenant, pour moi, il n'y a pas une transformation structurelle de l'attaque, vraiment. Donc, j'attends de voir sur la longueur ce que ça donne vraiment. L'échantillon est encore trop court pour voir quelque chose, je trouve.
La belle surprise de ce match, c'est Khalil Shakir qui a 115 yards, sur 3 réceptions, où l'inverse aurait été plus compliqué. 115 réceptions pour 3 yards, ça fait vraiment beaucoup de surplace. Khalil Shakir, est-ce qu'ils vont trouver un numéro 2 pour remplacer Gabriel Davis, qui n'a plus très envie d'être là visiblement, Grégory?
Non, c'est sûr, en tout cas ils peuvent trouver des options supplémentaires. On sait que Dalton Kincaid, qui a encore été très sollicité sur ce week-end-là, peut quand même aspirer à avoir un peu plus de responsabilité. Après, si on parle de receveur écarté, oui, Khalil Shakir peut avoir un profil, alors peut-être pas similaire, parce que c'est peut-être pas exactement le même profil que Gabe Davis, mais en tout cas dans ce rôle de slot receiver, il peut être extrêmement précieux, la preuve, hein, notamment avec cette réception de 81 yards. Moi, je rejoins un petit peu ce que disait Raph. Moi, de toute façon, pour moi, la clé, au-delà de la question des receveurs, c'est la question des running backs. Voilà. Et pour moi, je pense que le rôle principal du coordinateur offensif, au-delà de jeux hyper créatifs, c'est de faire prendre conscience à Josh Allen que justement, il ne peut pas être l'unique dépositaire offensif du jeu. Et très souvent, quand on voit qu'il y a une alternance qui est beaucoup plus marquée au niveau du jeu offensif de Buffalo, quand on voit que Josh Allen ne part pas trop dans des improvisations qui peuvent être coûteuses, parce qu'il y a toujours des pertes de balles quand même, ils sont assez répétitives malgré tout dans le bilan global d'Allen, et voilà, ça se passe pas toujours très très bien pour Buffalo, donc il va falloir se servir avant tout ce match comme un exemple de, bah tu vois, quand les autres ont le ballon, c'est pas forcément dommageable pour l'équipe, donc je pense que c'est une prise de conscience à avoir.
38 courses pour 32 passes, en effet, ils ont été quand même pas mal plus équilibrés que sur certains matchs. Je vais terminer avec le petit adieu avec Zach Wilson quand même, en disant que je trouve les gens assez cruels avec lui. J'ai vu passer une stat qui disait que c'était le premier match de Zach Wilson à moins de 140 yards cette année. Je trouve ça assez odieux de sortir cette stat. D'habitude, on lui laisse le garbage time quand même pour gonfler ses stats. Là, il l'a pas eu, donc c'est aussi, on peut pas critiquer en disant qu'il est à moins de 140 yards. D'habitude, on lui laisse au moins ça. On passe aux Dolphins 20, Raiders 13. Les Raiders qui sont restés dans le match jusqu'au bout, grâce à 3 ballons perdus par les Dolphins. Leur attaque n'a rien réussi en deuxième mi-temps. On l'a commenté avec Victor et on se disait que c'était quand même pas un super match pour le CV d'Antonio Pierce. Est-ce que vous aussi vous les avez trouvés terriblement frileux?
On parle des Dolphins ou des Raiders?
Les Raiders. Parce que la séquence avant la mi-temps par exemple est terrible. T'as une course où tu laisses tourner le chrono alors qu'il reste une grosse minute. Étaient des quatrièmes qu'ils auraient pu tenter. Enfin, ils avaient rien à perdre et on a l'impression qu'ils ont joué toute la soirée pour perdre.
Ils ont rien à perdre, oui et non, parce que ça restait une équipe. C'est vrai qu'on a tendance à relativiser un petit peu leur bilan de début de saison, mais ça reste une équipe à 5 victoires et 5 défaites au moment où ils arrivent au Hard Rock Stadium.
Non, donc, mais tu joues quand même une équipe qui est quand même bien plus favorite que toi.
Ah oui, mais bon, si tu pars par là, voilà. Après, tu te dis que t'es mené que 14-13 dans les dernières secondes de la première mi-temps, que manifestement, t'as une attaque de Miami, elle l'a démontré par la suite, qui est pas forcément, hormis Tyreek Hill, au sommet de sa forme. Hein, bon, on me dira que les stats de Tagovailoa sont pas infamantes, mais en termes de rythme, ça a quand même eu un petit peu de mal à se mettre en place sur l'ensemble de la partie. Je pense que voilà, peut-être qu'Antonio Pierce s'est dit, bah, avec peut-être un meilleur visage et des ajustements en deuxième mi-temps, bah, ça ira mieux. Sauf que les ajustements n'étaient peut-être pas forcément du côté de Las Vegas. Ou en tout cas, malheureusement, offensivement, on n'était peut-être pas aussi inspiré du côté du coordinateur offensif des Raiders cette semaine qu'on l'a été la semaine précédente. Donc, c'est peut-être plus en ça, malheureusement, que c'est problématique. Après, la frilosité d'Antonio Pierce sur cette fin de première mi-temps, c'est pas ce qui m'a le plus sauté aux yeux, perso.
Très bien. Aidan O'Connell est à 24 sur 41, 271 yards, un touchdown, 3 interceptions. Il n'y a quasiment pas de jeu au sol. C'est surtout ça qui a pêché, peut-être, Raphaël, c'est qu'ils n'ont pas réussi à établir le jeu au sol.
Oui, c'est ça qui m'ont aidé. D'ailleurs. Enfin, qui ne les ont pas aidés. Et Antonio Pierce l'a un peu dit aussi en conférence de presse que d'après match, ils veulent courir plus. Il a parlé d'un chiffre magique. Il veut que Josh Jacobs ait au moins 20 portées par match et installer un jeu un peu à l'ancienne, c'est pas le bon terme, mais voilà, peser plus au sol pour ouvrir des opportunités à la passe. Je trouve pas ça déconnant avec un quarterback rookie pour le coup, hein, comme O'Connell qui semblait en plus un projet qu'un quarterback vraiment prêt normalement à être sur le terrain d'entrée. Donc dans le fond, la philosophie offensive me gêne pas pour le coup, surtout que Jacobs a été plus ou moins payé pour faire ça, donc je suis pas gêné. Et comme tu dis, c'est, avec un jeu au sol qui s'installe pas, ils rendent vite la balle à Miami, et Miami a un peu le temps de beaucoup attaquer, même s'ils n'ont pas toujours bien fait pour le coup, mais ils ont eu quand même beaucoup d'opportunités. Donc je pense effectivement ils se perdent un peu là-dedans, les Raiders. Mais bon, je trouve, tu dis frilosité peut-être, mais je trouve qu'au final c'est un match qui est pas non plus totalement décourageant pour les Raiders. Ils sont pas si loin que ça d'aller battre une équipe de Miami qui sur le papier est beaucoup plus favorite qu'eux, dont on attend plus, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que tu refais le même match en début de saison avec Mike Daniels, je suis pas certain que les Raiders en prennent pas 35 et qu'il y a pas 30 points d'écart. Donc je trouve que la dynamique reste quand même intéressante.
Ils ont bien défendu pour le coup, c'est vrai que ça c'est quand même à noter, ils prennent que 20 points, je suppose que c'est le plus petit total de Miami cette saison, non ils en ont mis que 14 aux Chiefs quand ils ont perdu, mais après moi j'ai tendance aussi à trouver que cette attaque de Miami elle ralentit, mais comme elle ralentit un peu chaque année, ils démarrent toujours fort, et puis ça ralentit un petit peu, et là on les a quand même, c'est pareil, eux c'est le jeu au sol qui a manqué dans ce match, ils mettent plus en place le jeu au sol vraiment rouleau compresseur qu'ils ont mis en place en début de saison, Grégory.
Oui, ça je me l'explique pas parce que, mais je pense que globalement les deux équipes, hein, ça vaut pour les deux équipes parce que les Raiders par exemple s'évertuent à passer beaucoup plus en deuxième mi-temps alors que justement t'es pas si loin au tableau d'affichage, ça c'est ce qui me fait tiquer un petit peu plus, mais je te rejoins en effet du côté de Miami. Alors c'est vrai que on va passer un petit peu pour les gens qui donnent l'impression de pinailler, parce que c'est vrai qu'il y a plus de 400 yards mine de rien en attaque, mais comme on le dit, après c'est surtout un problème de concrétisation et un problème éventuellement de confiance justement face à des équipes qui ont au moins un bilan égal. Malheureusement du côté de Miami on n'arrive pas à l'avoir depuis le début de la saison, et c'est aussi la principale problématique offensivement. Leur gros problème l'année dernière, pour rejoindre ce que tu disais Alain, c'était aussi que c'était une équipe de série, c'est-à-dire que c'est une équipe qui pouvait gagner 4 matchs comme ils pouvaient en perdre 4 par la suite derrière. Ils font un peu moins le yo-yo à ce niveau-là, ils vont perdre quelques petits matchs, mais globalement ils arrivent quand même à tenir le bon bout et ils ont toujours la main dans la FC Est pour potentiellement avoir un bon tirage entre guillemets en play-off, hein. Ils sont à égalité avec le premier de conférence, faut pas l'oublier non plus. Mais oui, offensivement, en effet, le jeu au sol est sans doute moins sollicité. On va sans doute faire beaucoup de choses à Raheem Mostert. On perd en plus Devon Achen qui revenait à peine de blessure et dont on ignore la durée de l'indisponibilité. Donc ouais, peut-être que ça les a un petit peu échaudés, je pourrais pas te dire concrètement, mais ouais, ça reste une équipe malgré tout qui est capable d'être explosive. Maintenant, faut être vraiment conquérant sur chaque série, quoi.
Ça refait mal au même genou d'Devon Achen. Raphaël, la grosse satisfaction pour Miami, ça reste la défense. Jalen Ramsey, il est incroyable sur ce match. C'est l'homme du match, hein, avec deux interceptions.
C'est la bonne satisfaction, effectivement. On a une défense de Miami qui monte, qui progresse. Hein. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer, je trouve, du côté des Dolphins. Depuis 2-3 semaines, c'est un peu plus intéressant. Donc, comme tu dis, Ramsey fait beaucoup de bien par ce qu'il apporte, même s'il finit un peu dur physiquement là sur sa deuxième interception.
Oui, il est mal retombé. Ouais.
Mal retombé, mais bon, après, il a vite recélébré, donc je pense qu'il n'y aura pas de conséquences très graves. Un peu son comportement diva, on l'aime aussi un peu pour ça, le Ramsey. C'est mieux en défense. Après, je trouve qu'on n'est pas encore sur une équipe qui exprime, en tout cas en défense, le potentiel qu'on peut en attendre. Mais il y a du mieux, c'est certain.
Bon, ça peut monter en puissance aussi au fur et à mesure de la saison. On passe aux Packers 23, Chargers 20. La défense des Chargers qui continue de décevoir. Les Packers ont marqué le touchdown de la gagne à 2 minutes 33 de la fin sur une passe de 24 yards signée Jordan Love pour Romeo Doux. L'attaque des Chargers a aussi manqué des occasions et avec des ballons relâchés, 1 sur 4 dans la zone rouge. Mais je reviens sur la défense quand même pour commencer. 9 actions de plus de 20 yards pour Green Bay, qui s'est quand même plutôt fait plaisir face à cette défense des Chargers, Raphaël.
Oui, bon bah j'ai envie de dire on le découvre plus là, ça commence à faire suffisamment de matchs où la défense des Chargers se fait complètement rouler dessus. Les dernières semaines, ils ont eu de temps en temps la chance, l'opportunité de réaliser un turnover sur le dernier drive, et ce qui fait que Los Angeles a gagné. Je pense notamment au match contre les Vikings où il y a une interception en toute fin de match, mais c'est sûr que s'ils n'arrivent pas à créer les turnovers en plus, bon bah là, quand tu ne fais que prendre des yards et sans créer les turnovers, tu finis par perdre. Donc il y a une équipe, un groupe qui est complètement en perdition du côté défensif. Même je trouve un joueur comme Derwin James multiplie les fautes un peu bêtes, multiplie les erreurs. Brandon Staley semble quand même sur un siège éjectable et semble le principal fautif responsable de cette incapacité à obtenir plus de l'équipe. Après, voilà, je me mets dedans. Je pense qu'on est peut-être quelques-uns à avoir vu un peu trop beau peut-être cet effectif aussi, qui me semble en défense peut-être pas si bon que ça. Enfin, je pense à un Joey Bosa par exemple qui arrive pas à faire plus de 8 matchs. C'est compliqué aussi. Il y a des joueurs comme ça un peu embêtants. Mais bon, c'est une prestation encore honteuse défensivement. Il n'y a pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire.
Grégory, l'attaque n'était pas dedans non plus totalement, mais on a envie de dire que ça arrive. Normalement, c'est quand tu as un coach défensif, justement, que la défense elle doit se sauver la mise de temps en temps. Quoi.
Bah oui, c'est un peu ça. Alors, je rejoins à moitié Raph parce que, oui, en effet, il y a des erreurs qu'on ne doit pas voir. Et voilà, il y a peut-être des joueurs honnêtement, oui, là, je suis d'accord, en fin de parcours. Peut-être qu'un Joey Bosa peut se relancer ailleurs, mais clairement, on voit qu'au Chargers, en tout cas, il n'est pas fait pour faire une année complète. Mais on n'arrive pas à bonifier le talent qui est sur le terrain. Je pense que cette équipe des Chargers, elle doit briguer mieux, que ce soit offensivement et surtout défensivement, de pas prendre des vagues pareilles. Alors après, voilà, pardon, Green Bay, on sait qu'ils ont une équipe quand même assez jeune, insouciante, qui en fonction des semaines peut être capable d'accélérer un petit peu. Là, sur ce week-end-là, ils l'ont bien montré avec une solide prestation globalement de Jordan Love. Mais ouais, c'est pas possible, comme le disait Raph, si au bout d'un moment t'es obligé de compter sur la bataille des turnovers pour vraiment être sûr de potentiellement réussir à gagner des matchs dans une AFC West en plus où t'es quand même derrière les Raiders, quoi. Je veux dire, quand on voit le scénario des deux équipes cette année, les Raiders qui ont changé d'entraîneur, etc., sont devant toi au classement alors que t'as quand même un effectif qualitativement qui est quand même plus intéressant sur le papier. Donc oui, je rejoins Raph, je pense que malheureusement, voilà, l'expérience va toucher à sa fin du côté de Brandon Staley. Le contraire m'étonnerait beaucoup.
Du côté des Packers, c'est les jeunes qui ont fait le boulot. Jordan Love, 27 sur 40, 322 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Jalen Reed, qui a le plus de yards au sol, il est rookie. Dontavion, j'espère que je le dis bien,
Dontavion. Oui, c'est ça. Ouais.
A le plus de yards à la réception. Romeo Doux, c'est très jeune, etc. Raphaël, ça commence à prendre forme. On sent vraiment que c'est une équipe jeune. C'est-à-dire que là, c'est alors face à une défense qui est en difficulté, hein, mais au moins, ils arrivent à prendre ces choses-là.
Oui, c'est toujours bon à prendre quand ils le prennent, c'est clair. On le savait, hein, c'était une année de reconstruction, on va dire, côté Green Bay, avec autant de rookies, notamment en attaque. Ou de jeunes joueurs, si ce n'est des rookies, parce que Jordan Love n'est plus un rookie, mais bon, on le voit enfin sur le terrain, on va dire ça comme ça. C'est bon à prendre, c'est un bon match. Après, je t'avoue que la défense en face se fait tellement écraser par tout le monde que j'ai forcément envie de voir plus si Green Bay est capable de confirmer ça offensivement, les bonnes choses qu'on a vues. J'ai besoin d'en voir plus. Il y a quand même la blessure hein, d'Aaron Jones qui moi m'embête pour la suite. Pour le coup, bon, sur ce, voilà, j'attends de voir. J'ai peur que ce soit peut-être par un feu de paille, exagérons pas, mais un sursaut qui appelle pas forcément à plus par la suite, quoi.
Greg, est-ce que tu es un peu plus convaincu?
Je rejoins globalement Raph. C'est sûr que ça demande à être confirmé, malheureusement, vu les nombreux visages qu'on voit de l'attaque de Green Bay. Je pense que là aussi, ça va être mon leitmotiv de cette émission, mais avec une ligne offensive, avec quelques retouches sur la ligne offensive ces prochains mois, ça peut vraiment devenir une attaque assez séduisante à voir malgré tout. Sachant que la défense est quand même globalement solide depuis le début de l'année. Mais oui, pour l'instant, c'est encore trop léger. Mais avec un bilan de 4-6 dans cette conférence nationale, tu te dis que si tu es capable de prendre feu, pourquoi pas d'aller créer la surprise à Détroit pendant Thanksgiving? Bah écoute, voilà, au jeu du momentum et de l'insouciance globale, pourquoi pas? Mais s'il part de très 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 loin.
Texans 21, Cardinals 16, deux équipes qui partaient aussi de très loin hein, au début de la saison. Trois interceptions pour CJ Stroud et pourtant la victoire. Houston menait 21-0, les interceptions sont arrivées en fin de match. Arizona a eu trois fois le ballon pour passer devant, trois fois ils échouent sur quatrième tentative. Est-ce que Arizona peut s'en vouloir qu'à... Est-ce qu'ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, Raphaël?
Oui, on peut dire ça parce qu'ils ont les opportunités. Après, t'as aussi une défense de Houston qui fait les actions clutch, on va dire, au bon moment sur ses quatrièmes tentatives. Donc, c'est un peu des deux pour le coup. Après, ils peuvent peut-être s'en vouloir un peu plus globalement parce qu'en réussissant à intercepter trois fois CJ Stroud, il y avait peut-être aussi un peu plus à faire. C'est vrai que finalement, ces opportunités, elles arrivent très tard en fin de match et. Bon, peut-être qu'au cours du match, ils auraient pu être un peu plus proches et ne pas dépendre d'un dernier comeback in fine. Maintenant, c'est une équipe qui reste encore un peu limitée, qui est en construction de par le nouveau coaching, tout ça, le retour de Kyler Murray. Donc, je sais pas. Enfin, c'est pas très grave, quoi.
Ouais, qui au final est dans les matchs quand même, mine de rien, Greg. Ils sont quand même jamais ridicules et c'est encore le cas sur ce match. Ils se battent, mais ça va pas au bout, quoi.
Oui, après, là, sur le principe, oui, on peut dire qu'ils peuvent s'en vouloir par rapport aux interceptions. Après, il ne faut pas oublier que c'est des interceptions qu'ils provoquent, en tout cas, notamment les deux dernières, dans leurs 20 yards de mémoire. Donc, c'est sûr que voilà, s'il y avait vraiment eu une action défensive capable de les mettre en excellente position pour que l'attaque le bonifie, ça aurait été une chose. Là, c'est vrai qu'il y avait quand même un gros boulot. Et encore une fois, ils ne déméritent pas. Il y a des jeunes qui jouent leur chance crânement jusqu'au bout pour potentiellement rester dans le roster la saison prochaine. Mais malheureusement, voilà, je le répète semaine après semaine, et pourtant, ce n'est pas la pire équipe de la Ligue d'un point de vue comptable. Mais on est sur une équipe qui reste très limitée en termes de talent sur certains postes clés. Et malheureusement, sur des matchs couperés comme celui-là, ça se ressent.
Du côté des Texans, on l'a dit, CJ Stroud a lancé 3 interceptions, mais il lance aussi 336 yards et 2 touchdowns. Devin Singletary est devenu le coureur numéro 1 avec 112 yards. CJ Stroud, on continue de, je sais pas si c'est s'étonner, mais de s'ébahir toutes les semaines, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous avez vu cette déclaration en conférence de presse assez solide. On lui demandait s'il était perturbé par les 3 interceptions. Il a dit Stephen Curry, quand il rate, il s'arrête jamais de shooter, donc je vais pas m'arrêter de shooter.
Oui. Ça fait sens.
Oui, bah après voilà, on était assez ébahis depuis le début de la saison du peu de pertes de balles qu'il pouvait concéder. Je pense que s'il en concède que 3 de temps en temps sur certains matchs, dans les matchs que tu gagnes, bon là on a joué un petit peu à se faire peur, mais je pense que si globalement il le fait que de temps en temps dans des matchs où t'as globalement la main, je pense que les fans de Houston s'en satisferont. Mais voilà, c'est sûr qu'il vaut mieux, après une telle prestation, repartir avec la victoire. Si Arizona s'était imposé, on aurait peut-être pu avoir un Stroud, même s'il a l'air très solide dans la tête. Pourquoi pas, ça aurait pu le faire cogiter. Là, heureusement, c'est sans dommage pour la suite. Dans un match où quand même il a été extrêmement solide, notamment en première mi-temps. Donc voilà, on va passer entre guillemets cette petite incartade, ou en tout cas ce double visage de CJ Stroud. Et je te rejoins, en tout cas, sa déclaration montre que voilà, ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'assez clair et encore une fois solide dans sa tête.
Petite pause et les 4 matchs.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tristan.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On passe du côté de la conférence NFC avec les 49ers 27, Buccaneers 14. Évaluation parfaite pour Brock Purdy, 21 sur 25, 333 yards, 3 touchdowns. Les 49ers sont gentiment détachés tout au long du match, ils n'ont jamais été menés, ils n'ont pas perdu de ballon. Brock Purdy qui signe sa meilleure évaluation en carrière après avoir signé sa meilleure évaluation en carrière la semaine dernière, donc il a amélioré en fait sa meilleure marque de la semaine dernière. Ça commence à devenir dur de douter de Brock Purdy, Raphaël.
Oui, oui, c'est dur quand il joue comme ça, aussi juste, aussi millimétré, précis. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à redire. Et ça fait, du coup, ça transforme les 49ers en équipe quasiment injouable, à peu de choses près. Hein. C'est compliqué de voir comment tu les manœuvres. Il y a tellement de talents, de façons différentes d'attaquer, de gagner des yards, que forcément quand le quarterback qui est la pièce maîtresse de tout ça se met au diapason du reste, c'est compliqué. Non, je suis plutôt d'accord, il y a eu deux matchs un peu compliqués dont un après plus ou moins un choc à la tête, donc à quel point ça a un peu impacté les lancers derrière, on saura jamais, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir suffisamment de bons matchs de Brock Purdy pour se dire que le gars est bon dans ce qu'on lui demande de faire et il n'y a pas de raison que ça change drastiquement. Alors bien sûr, peut-être que ça sera autre chose le jour où il faudra remonter 25 points de retard, mais pour le moment, les 49ers sont jamais dans cette situation. Donc bon.
Greg, on a retrouvé le rouleau compresseur de San Francisco offensivement.
Ouais, tout à fait. J'allais dire, la semaine de repos, elle a quand même fait du bien. Hein. Après les semaines de disette, on va dire, notamment à la fin du mois d'octobre, là, on a l'air d'avoir un coaching staff qui a tiré les enseignements de ce qui ne marchait plus, hein, au-delà des retours de blessures qui ont fait beaucoup de bien, notamment offensivement. Des échanges également en défense qui rendent vraiment cette ligne défensive, notamment des Niners, hyper impressionnante. Mais si on reste vraiment sur l'attaque, globalement, face à une équipe de Tampa qui commence à accuser le coup un petit peu en défense, on l'avait vu à Houston, notamment avec le show CJ Stroud, là, ça s'est ressenti de nouveau, et ça fait deux semaines de suite qu'on a des succès extrêmement convaincants du côté de San Francisco, que ce soit offensivement ou défensivement.
Les Buccaneers qui accusent le coup en défense, et en attaque, qui restent extrêmement prévisible. C'est une équipe maintenant qui n'a pas de jeu au sol, on le sait, qui doit se débrouiller avec Baker Mayfield et les receveurs. C'est pas tenable face à une équipe comme les 49ers, c'est ce genre de pass rush, Raphaël.
Ouais, c'est pas tenable être aussi unidimensionnel. Pour le coup, tu peux pas juste jouer comme ça devient trop prévisible et c'est pas juste en étant accrocheur que tu peux gagner de manière récurrente et répétée en NFL. Il y a un Rashad White qui arrive pas à courir. Pourtant, sur certaines courses, tu sens que c'est pas forcément un problème de vitesse ni rien. Donc, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ce qui bloque autant sur le jeu au sol. J'ai pas l'impression que la ligne soit particulièrement catastrophique non plus sur le run, mais ça ne passe pas. C'est un peu un mystère sur lequel il faudrait se pencher un peu plus. Mais c'est vrai que cette incapacité à courir leur coûte cher. Ouais.
C'est ça, et surtout, je me permets juste, Alain, ce qui est quand même problématique, c'est que on a déjà vu, j'allais dire, des bonnes saisons, au moins une bonne saison de Baker Mayfield dans un système offensif où le jeu au sol était une force avérée. Là, malheureusement, ou à partir du moment où c'est en effet Baker Mayfield qui doit être le principal dépositaire du jeu offensif, t'as beau avoir des receveurs de très grande qualité, notamment Mike Evans, bah, ça peut pas faire la différence sur 4 cartons à mon sens. Donc c'est sûr que ce problème de jeu au sol, il va poursuivre Tampa jusqu'au bout. Et à mon sens, déjà, le bilan de 4 victoires est très flatteur. Ils ont surfé sur un bon début de saison, notamment où la défense était bien mieux inspirée que ce qu'on voit depuis peu. Mais là, ça fait quand même 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Et malheureusement, on a du mal à savoir quel peut être le déclic du côté de cette équipe de Tampa.
Les Panthers 10, Cowboys 33, match parfaitement géré par les Cowboys, même quand Carolina est revenue à 7 points dans le troisième quart, ils ont répondu avec un touchdown et un pick 6 derrière pour prendre le large. CeeDee Lamb a été plutôt contenu par rapport à ses dernières sorties, il a 38 yards et un touchdown. La leçon de ce match justement, c'est qu'ils ont montré le reste de leur palette, Greg, CeeDee Lamb est discret, mais en fait ça n'a pas eu d'influence finalement.
Ouais, je sais pas si vraiment j'étais un petit peu perturbé quand même par cette prestation globale de Dallas. Je sais pas s'ils étaient un peu dans une petite routine, mais pour une équipe par exemple qui s'est fait piéger à Arizona cette année, et je les ai pas sentis capables avant notamment la fin de rencontre de vraiment faire la décision. Il y a vraiment eu ces deux drives de suite, hein, ces 14 points consécutifs qui ont vraiment clairement sonné les glas des Panthers. Mais comme tu l'as dit, on a malgré tout permis à Carolina de reprendre un peu espoir. Alors tout est relatif parce qu'en effet, tu ne te sens pas une équipe de Carolina qui est capable de renverser la table non plus, très clairement. Mais alors, je parle surtout offensivement, hein. Entendons-nous bien. C'est sûr que la prestation défensive de Dallas, j'ai rien à redire là-dessus. Ça reste une des meilleures défenses de la ligue et ça, il n'y aura rien à redire. Offensivement, je reste quand même toujours inquiet dans l'optique notamment des playoffs.
Raphaël, t'avais pas l'air d'être tout à fait inquiet sur ce match.
Ouais, un peu moins. J'entends que c'est pas un match très convaincant, mais j'ai un peu peur. Alors, c'est toujours dommageable de faire ça, mais je crois que Dallas y est un peu allé avec la main sur le frein, quoi, ou le pied sur le frein plutôt.
C'est bien ce qui me perturbe. C'est ce que je dis.
C'est plutôt ça.
Raphaël conduit avec les pieds.
Ouais, voilà, nouveauté.
Les pieds sur le volant, les mains sur les pédales.
Je vous montrerai un jour. Mais comment dire, désolé, c'est le côté parisien de ces peu de conduite.
C'est ça.
Non, mais bref, blague à part. Je sais pas, moi je trouve que quand il a fallu accélérer, ils ont accéléré. Il n'y a pas eu vraiment match. Et comme Greg l'a dit, on n'a jamais senti Carolina en mesure de remporter ce match. Et au final, je trouve que depuis plusieurs semaines, Dak Prescott est vraiment très propre. Il fait avancer son équipe. Je les trouve bons. C'est pas une domination comme on aimerait voir une équipe qui arrive et qui donne tout de A à Z, mais il préserve peut-être un peu des forces. Je sais pas. Je suis pas perturbé.
Moi, je me méfie d'une équipe qui préserve ses forces en playoff quand on voit que le problème justement c'est les playoffs.
C'est autre chose avec Dallas. En défense, en tout cas, 10 pressions pour Micah Parsons, 8 de ces 10 pressions qui sont arrivées en moins de 2 secondes et demie. Un pick 6 pour Darren Bland, c'est son 4e de l'année, record NFL égalé. Ils ont pas perdu de ballon, donc ça c'était quand même plutôt pas mal. Bryce Young en face, le point, c'est un peu comme CJ Stroud, c'est le point hebdomadaire Bryce Young. 16 sur 29, 123 yards, un touchdown, une interception. Cette attaque, elle gagne que 187 yards au total, c'est pas grand chose. Mais il y avait une immense défense en face, donc c'est compliqué. Il y a des circonstances atténuantes, Grégory?
Bah, c'est un peu comme Arizona, je pense qu'on va répéter ça tout au long de la saison, mais oui, malheureusement, le casting autour de lui est pas bon. Je pense que du côté de Carolina, cette année, tu retires Adam Thielen et Frankie Louvou, peut-être de l'autre côté, et puis bah voilà, t'as sorti à peu près les deux bons joueurs des Panthers, parce que le reste, malheureusement, c'est bien trop discret, à tel point que bah, y a quand même beaucoup de rumeurs qui commencent à insister sur le fait que Frank Reich pourrait être débarqué dès sa seule saison du côté de Charlotte, donc ça en dit long, je pense, sur la désillusion qu'il y a en interne sur le potentiel qui n'est pas suffisamment exploité, non seulement de la part de Bryce Young, mais des pièces qu'il y a autour de lui. Donc oui, malheureusement, je pense que cette fin de saison va être très compliquée pour Carolina et que ça va même être très dur, à minima, de ne pas finir pire équipe de la Ligue et d'offrir ce premier choix de draft aux Chicago Bears à l'issue de cette campagne.
Je crois que c'est vraiment ça le plus dur pour eux, mais après, ce qui est dur aussi, enfin, je pense que ce qui fait mal à Frank Reich, c'est quand même la comparaison, parce que mine de rien, c'est une équipe qui gagne 7 matchs l'an dernier, pas avec beaucoup plus de matos, tu vois.
Ah bah, clairement, non. Puis, après, il y a eu des blessures, enfin, la défense, encore une fois, je suis un peu sévère, c'est vrai que Louvou est le plus régulier à mon sens. La défense, encore une fois, on sait qu'il y a du talent, c'est pas infamant, il y a des joueurs assez intéressants, Brian Burns, Derrick Brown, j'en oublie d'autres, mais ouais, offensivement, Enfin, franchement, on parle souvent d'attaques un peu poussives depuis le début de la saison. Je pense qu'avec Carolina, on est quand même en dessous de tout, quoi. Il n'y a pas un secteur où on arrive à peu près. Si, encore une fois, comme je disais, peut-être Adam Thielen qui soigne les stats depuis le début de l'année.
Oui,
reste, c'est abyssal, quoi. Et tu peux pas, en plus, quand t'as un coach comme Frank Reich qui est censé avoir un background, une spécialité, on va dire, un peu offensive, tu peux pas afficher de telles prestations, quoi. Et d'ailleurs, il a repris les appels de jeu offensifs. Il y a cette espèce de yo-yo entre lui et Thomas Brown.
C'est pas bon signe. Hein.
Au bout d'un moment, mettez-vous d'accord, mais proposez autre chose, quoi.
J'ai un trou de mémoire, Raphaël. Il est dans la liste des coachs que tu mettais sur le départ dans les leçons de la semaine.
Dans les leçons de la semaine, parce que je crois que je l'avais déjà mis il y a deux ou trois semaines. Donc j'essaye un peu de varier pour montrer que je veux pas virer tout le monde et pas me répéter. Mais Grégory l'a dit, c'est très compliqué. En plus là, quand le coach commence à rechanger, revenir sur ses propres décisions, ça sent pas très bon. Malheureusement pour Reich, c'est un peu dans la continuité de la dernière saison à Indianapolis. Il a quand même été viré en cours de saison à Indianapolis. Ça n'avançait plus du tout en attaque. C'était très compliqué.
En fait, à l'époque, on disait que le problème c'était les quarterbacks vieux. Voilà, il a un quarterback rookie, ça marche pas non plus. Donc en fait, faut lui donner un joueur de 27 ans. Allez, vas-y, mon grand, tu vas y arriver.
Eh bien, des quarterbacks un peu plus âgés. Il en est question avec les Rams 17, Seahawks 16. Les Seahawks qui ont manqué le field goal de la gagne à 55 yards en fin de match, après avoir couru sur troisième tentative. Est-ce qu'ils ont été trop timides? Je reprends ma question tout à l'heure pour les Raiders. Ça aurait été bien une petite passe pour rapprocher un peu le kicker quand même, non?
Raphaël, l'ultra agressif. En fait, si tu veux, là où je suis un peu moins d'accord, c'est que j'ai trouvé qu'à d'autres moments, ils étaient très agressifs. Enfin, j'ai en tête des troisièmes tentatives où ils ont juste 2-3 yards à gagner et ça appelle des passes avec des tracés en profondeur des 3 ou 4 receveurs plutôt que de gagner des petits gains. Donc, je trouve que comme dans le match, il y a beaucoup de décisions un peu agressives. Je sais pas si c'est celle-là qui me bloque le plus pour le coup.
Tout ou rien.
Ouais, c'est un peu tout ou rien, c'est ça le problème, ouais.
Après, il y a un contexte un peu particulier. Geno Smith est sorti alors que Seattle menait 16-7. Drew Lock n'a même pas gagné un first down en relève. Smith revient pour le dernier drive, fait deux passes pour aller mettre son équipe en position de field goal, justement. Donc, est-ce qu'on est quand même sur un match qui est un peu faussé, Grégory?
Dans quel sens? Sur le fait que Seattle, du coup, n'ait pas joué avec ses armes. Oui, parce qu'en plus, ils perdent aussi Kenneth Walker en début de match assez rapidement. Donc, c'est sûr que...
Parce que Locke fait punt, alors que la défense avait intercepté Stafford.
Et puis quand Smith revient, direct, ça se met en position pour un field goal. Donc tu te dis, ok, s'il y avait eu un drive de plus de Smith, ça fait peut-être la différence. Ouais.
Non, mais après, oui, on va pas dire que forcément on n'aurait pas pu tenter un petit peu autre chose. Il en reste quand même un petit peu de temps. Attends, j'essaie de revoir un petit peu le scénario globalement, mais... Oui, il y avait moyen d'obtenir peut-être au moins une tentative supplémentaire avec le corps de receveur que t'as, enfin un petit lancer latéral. Je pense que c'était pas forcément ce qui allait le plus farfelu, même si c'était pas complété. Si t'as pas une solution d'emblée, au pire tu la sors dehors. Mais oui, il y avait peut-être possibilité d'obtenir une gâchette en plus. Surtout que là, on est un petit peu sévère depuis le début de la saison, mais il y avait un DK Metcalf globalement qui était assez performant. Ça joue sur des détails, mais après. Ça reste des field goals qu'on est capable de mettre quand même quand on est kicker NFL, à mon sens. Hein. En tout cas, ne pas le manquer dans de telles proportions.
Ouais. En tout cas, oui, je disais punt et une interception derrière pour Drew Lock. Raphaël, ça te faisait plaisir de retrouver Drew Lock? Je sais qu'à une époque, c'était vraiment
un truc
de regarder les Broncos de Drew Lock.
C'était vraiment
là, 2/6. Voilà, 2 sur 6 pour 3 yards et une interception. Je pense qu'il y avait des troubles post-traumatiques.
C'est le Drew Lock qu'on avait quitté. Hein. Clairement, pour être même transparent, quand je l'ai vu monter sur le terrain, j'avais même oublié qu'il était à Seattle et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas vrai. Il a réussi à retrouver une place. Donc, écoute, c'est un quarterback qui n'est pas tout à fait au niveau, je pense. Voilà,
Raphaël, il a vu Drew Lock arriver sur le terrain, il avait le bruit des hélicoptères qui passaient dessus et tout, il s'est mis en poule dans un coin de la pièce. Les Rams ont bien mené leur fin de match, mine de rien, en marquant un touchdown et un field goal pour passer devant. Matthew Stafford a été plutôt affûté à 17/31, 190 yards, un touchdown, une interception. Je dis plutôt affûté parce que c'était pas facile non plus. Ils perdent Cooper Kupp en cours de rencontre. Et il a été un peu aidé par les coureurs.
Oui, Royce Freeman qui est sorti du chapeau. Ouais. Là encore, je pense que la semaine de repos, elle a quand même été bénéfique pour les Rams pour bien préparer cette rencontre, pour laisser aussi la possibilité à Matthew Stafford de se remettre de ses différents bobos de ces dernières semaines. Alors, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus séduisant. Tu le disais, avant la sortie de Geno Smith, on n'était pas sur des Rams hyper convaincants. En tout cas, beaucoup moins en réussite que ce qu'on avait pu voir au match aller du côté de Seattle. Et voilà, on ne découvre pas que ça reste quand même un groupe qui peut être un peu plus limité qu'à une certaine époque en termes de talent. En tout cas, ça se ressent de plus en plus ces dernières semaines. Là, on a réussi à mettre les barbelés en défense. On a un brin de réussite sur le field goal. Mais en tout cas, ça fait du bien pour stopper un petit peu cette hémorragie-là. Après, il faudra peut-être espérer que Cooper Kupp arrive à être à 100% au moins une fois cette saison. Parce que malheureusement, et Kupp et Stafford, ces derniers mois, c'est un branle-ballon, on va dire, du côté de Los Angeles.
Raphaël, est-ce que tu as vu quelque chose chez ces Rams qui pourrait laisser penser qu'ils pourraient se joindre à la course au play-off? Je dis ça parce qu'ils sont 9e actuellement en NFC. Ouais. Ils sont à deux matchs du dernier strapontin.
Course au play-off, je suis pas sûr. Je pense que une équipe comme Minnesota, avec son calendrier, a un peu plus de chance d'obtenir ce 8e spot, parce que je vais mettre Cowboys et Seattle en poste 5 et 6, on va dire ça comme ça. Ouais, donc ouais. Je vois Minnesota un peu favorisé, et je pense que de toute façon les Rams sont pas franchement de quoi faire pour cette course au play-off. Après, ça reste une équipe jeune, hein. On l'a un peu dit, mais notamment en défense, t'as beaucoup de jeunes qui essayent de se montrer. Je pense au rookie Kobe Turner sur la ligne défensive, que je trouve vraiment intéressant depuis le début de la saison. Voilà, McVay, alors je sais pas si ça va être lui sur les années à venir, parce qu'on nous parle tellement de sa retraite tous les ans que je m'interroge, mais bon, dans une, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse revue d'effectifs pour les Rams et pour suivre l'an prochain, quoi.
En tout cas, la course au play-off du côté de la NFC, on y reviendra dans les semaines à venir probablement. Mais il y a déjà une petite cassure hein, quand même entre les 7 premiers. Mmh. Et puis derrière, il y a les Packers, les Rams, les Falcons qui sont à 4 victoires. Donc ils sont 2 victoires derrière les Vikings. Puis évidemment, bon, il y a la NFC Sud. Hein, ça, c'est autre chose. C'est un match dans le match, quoi. Le strapontin de la NFC Sud. On verra qui se le prend peut-être en négatif, peut-être pas. On termine avec les Commanders 19, Giants 31. La surprise de la semaine pour terminer. Les Giants qui semblaient morts et enterrés. Et bien sûr, Washington les a ressuscités. C'est le pouvoir magique de Washington. 6 ballons perdus par les Commanders, aucun pour New York. Je crois qu'on a la clé du match, Raphaël.
Oui, ouais, globalement, NFL, quand tu perds 6 ballons, tu peux fermer le rideau et rentrer au vestiaire, prendre la douche, tout ça. Non, bah effectivement, ça se joue là-dessus. Et j'ai même envie de dire que l'écart est même pas si énorme que ça avec 6 pertes de balles. Parce que franchement, si en face c'est pas les Giants, à mon avis, ils en prennent 60. Enfin, je. Voilà, que veux-tu, Washington est totalement inconstant, on les a vus contre les Eagles faire bonne figure, et derrière ça perd deux fois contre les Giants, ça perd contre les Bears. Franchement, c'est absolument anormal, et cette défense avec les joueurs qu'il y a, c'est catastrophique le niveau défensif. Enfin, c'est catastrophique. Enfin,
Ah bah là, Tommy DeVito, on s'est moqué de lui il y a deux semaines, maintenant c'est une superstar, hein. 246 yards, 3 touchdowns, aucune interception, malgré le fait qu'il prenne 9 sacs quand même.
Ah oui, bah ça, il en a pris plein la poire, c'est moins qu'on puisse dire. Mais alors tu vois, il y a beaucoup de comparaisons avec son nom, le côté un peu Hollywood, tout ça et tout. Bah là, je pense que dans le rôle du meilleur supporting cast, si tu me permets cet anglicisme, je pense qu'on peut nommer Ron Rivera, hein, parce que là, Raph en parlait, mais c'est catastrophique ce qu'on voit de Washington. Et il s'est fait, alors là encore, je vais reprendre une expression anglaise, hein, out-coaché, mais oui, il s'est fait dominer d'un point de vue coaching sur les deux matchs par Brian Daboll. On a une équipe de Washington qui a été annihilée à New York, et ça a été de nouveau le cas cette semaine. Certes, on est capable de générer de la pression, mais encore une fois, au crédit de la défense de Washington, c'est vrai que malheureusement, il y a trop souvent où les ballons étaient récupérés par Houston en excellente position. Quand tu démarres les deux mi-temps en concédant un fumble quasiment dans tes 20 yards, au bout d'un moment, tu peux être la meilleure équipe qui soit, et Raph l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que l'écart n'était pas non plus infamant, hein. Il y a eu 24-19 sur la dernière série de Washington, celle qui conduit au pick 6 d'Isaiah Simmons. Enfin, la défense en soi a eu ses problèmes, parce que tu peux pas prendre, à mon sens, 246 yards et 3 touchdowns de la part de Tommy DeVito, mais l'attaque est tellement catastrophique sur ce match-là que même avec une défense All-Star, même tu mets les Jets, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, bah malheureusement, il y a des moments où tu ne peux pas faire de miracle non plus. Et ce que montrent les Commanders d'un point de vue offensif, moi je veux bien, hein, on nous annonçait qu'Eric Bieniemy allait tout changer éventuellement, qu'il allait apporter sa patte en provenance de Kansas City, sauf qu'en termes d'exécution, bah, ou on ne choisit pas le bon personnel, ou on ne choisit pas les bons jeux, où on met trop de responsabilités sur tel joueur ou sur tel joueur. Mais malheureusement, hormis Brian Robinson, il y a des... c'est une équipe qui n'arrive jamais à avoir du rythme. Ils n'ont pas de ligne offensive, ça on ne le découvre pas, mais c'est une équipe qui n'arrive jamais à avoir du rythme. En tout cas, très rarement, et sur quelques rencontres, comme le citait Raph, paradoxalement, face à des équipes qui, sur le papier, sont plus fortes qu'eux.
Bon, Raphaël, le Ron Rivera, lui, il est viré, hein, si je me rappelle bien de toi.
Oui, oui, oui. Bah, Ron Rivera, voilà. je trouve qu'on a assez vu ce qu'il peut faire. Il y a eu une très très bonne saison du côté de Carolina, et après, ça a toujours été un peu moyen. Je pense qu'il fera pas beaucoup mieux. Mais après, je rejoins Greg, hein, ce que propose Bieniemy à Washington est aussi un peu laisse dubitatif, parce que il donne les clés du camion à Samuel, ça il y a zéro doute, hein. Samuel balance et lance dans tous les sens et ça fait du yard. Mais je sais pas, tu vois, il y a un McLaurin qu'on voit à certains matchs complètement disparaître, un peu oublié, il y a un jeu de course qui est sur courant alternatif, il y a quasiment aucun jeu, enfin avant le snap, il y a pas de motion, il y a pas de mouvement, c'est très scripté, très téléphoné, je trouve. Donc
tu donnerais pas forcément les clés du camion à Eric Bieniemy, si je comprends bien.
Je pense qu'ils vont le faire. Honnêtement, je pense que Washington va le faire. Moi, je mets ma main à couper que Washington va le faire. Mais je sais pas si c'est ce que moi j'aurais fait, mais je pense que Washington va le faire.
J'ai entendu Greg dire non, je crois.
Je pense qu'ils iront vers un spécialiste offensif, un coach qui a un nom un peu ronflant là encore pendant l'intersaison, mais Eric Bieniemy, je sais pas. Après, il y a plus rien qui m'étonne avec Washington. Hein.
Bieniemy, c'est un spécialiste offensif.
Oui, mais je pense qu'en effet, ils vont garder cette idée-là du coach offensif, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans l'idée de garder Bieniemy. Après, on a vu, il y a beaucoup d'exemples qui ont été tentés par le passé. Hein. Un des récents en date pour faire plaisir au quarterback local, c'était Dirk Cutter à Tampa Bay. On a vu comment ça s'est passé par la suite.
Ouais.
Donc ils peuvent le faire, hein, c'est pas farfelu, mais j'ose espérer pour les fans des Commanders que ça va pas se faire.
Il va y avoir le traumatisme d'avoir laissé passer les Shanahan, les McVay, les McDaniel, tout ça. Et
d'avoir laissé partir Cousins.
Voilà, donc je pense qu'à un moment, ils vont se dire, ok, on tente la solution interne, il faut qu'on donne la chance à quelqu'un qui est en interne. Mais
Bon, Eric Bieniemy ne ronfle pas assez pour Grégory, en tout cas.
Mais j'aime beaucoup le personnage, coup... hein, au-delà du coach. Hein. Entendons-nous bien. Hein.
Ok.
Pourquoi pas? Non, mais je veux pas paraître trop sévère avec la personne et donner l'impression de la juger au bout d'un an. Donc voilà, malheureusement, je pense que le contexte Washington ne lui permettrait pas en tant que head coach de réussir. C'est mon propos.
Mais alors, tu m'as désarçonné pour deux raisons. C'est un, j'ai le cerveau quand même un peu ramolli là, à force de me moucher. Et deuxièmement, en fait, quand tu disais j'aime bien le personnage, je me rappelais qu'il y avait quand même des articles qui étaient sortis au début de la saison, disons qu'il était un petit peu rigide et que ça passait pas très bien avec avec tous les joueurs
c'est
et
un
que
coach
il était
à poigne,
un petit peu.
Mais bon,
Bah, on a vu que ça marchait bien.
Ça apporte de l'eau à mon moulin. Je pense que je parle vraiment de la personne. C'est une personne très sympathique, mais en termes de coaching, je le répète, c'est peut-être pas la personne la plus adaptée, encore moins dans le contexte de Washington.
Très bien. Les Giants, quand même, pour terminer, messieurs, on a vaguement évoqué Tommy DeVito, donc qui fait un match correct, et puis c'est surtout Saquon Barkley qui prend aussi un peu tout ça sur ses épaules. Il a 14 courses pour 83 yards, 4 réceptions pour 57 yards et 2 touchdowns. Raphaël, c'est un peu le sauveur, quand même, Saquon Barkley aussi.
Oui, oui, c'est le sauveur quand le système offensif de New York arrive à le mettre en condition de performer. Ça tire toute l'attaque vers le haut. Donc tu l'as dit, c'est le sauveur là-dessus et il fait la différence parce qu'encore une fois en termes de cible c'est compliqué, on a là Slayton qui fait un match pas mauvais mais le reste on sent que c'est quand même pas du grand receveur capable de porter le jeu aérien, donc voilà, ça a permis à Barkley d'apporter des solutions de sécurité. Un Tommy DeVito quand même pas inintéressant sur le jeu en profondeur, il a plusieurs belles passes en profondeur qui montrent qu'il a un peu de bras. Alors, je sais pas s'il est capable de le reproduire, mais en tout cas, peut-être que New York s'est trouvé à minima un quarterback numéro 2 pour les années à venir. Ce qui n'est pas inintéressant quand on voit le nombre de quarterbacks 1 blessés cette saison. Pas inutile.
C'est vrai. Grégory, quelque chose à ajouter sur la performance des Giants?
Non, Rafa tout dit. C'est vrai que c'est intéressant parce que voilà, moi-même, j'ai cassé un peu de sucre sur le dos de Tommy DeVito. Donc, en effet, il rassure en tout cas sur certains éléments qui peuvent lui permettre d'obtenir à minima du temps de jeu en effet en NFL. Mais les Giants ne joueront pas les Commanders toutes les semaines et manifestement, voilà. On a le numéro de Ron Rivera du côté du coaching staff des Giants.
ils ne sont pas sauvés, donc les Giants. C'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode 677 du podcast Jeune Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font déjà. Pas mal de monde en plus cette semaine. Reg, je sais pas comment on dit, Franck Pat, Florian, Rome, Chatillot, Smer, Elway75, Julien Brossillon, François, Eric Le Géant et Cosard19 notamment. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est @TDActu et @TouchdownActu en entier sur Instagram. Tout le reste, c'est @TDActu. Les réseaux perso, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @CieloRadioSa pour Grégory et @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Merci beaucoup, messieurs.
C'est un plaisir.
Je vais aller prendre une soupe et aller décéder dans mon lit désormais. Je vous remercie d'avoir supporté mes bruits de mouchoirs et autres pendant tout ça. J'espère que ça s'entendra pas trop pour le rendu final, chers auditeurs. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Grégory.
C'est à toi.
Et on se dit à très bientôt sur les antennes de TDA. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.